a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide, affirmé Camus dans le mythe de Sisyphe. Émile Durkheim aurait peut-être dit la même chose en son temps, du point de vue sociologique cette fois, tant le phénomène de la mort volontaire joua un grand rôle dans son affirmation de l'existence d'une catégorie singulière de faits de science, distincts des faits biologiques et psychologiques, les faits sociaux. 116 ans après la publication de l'ouvrage fondateur de Durkheim, le suicide semble aujourd'hui faire l'objet d'un désintérêt patent des chercheurs en sciences sociales. Michel Fize, sociologue au CNRS, déclarait ainsi dans une interview accordée à Cerveau et Psycho en 2004 « L'analyse sociologique du suicide est presque au point mort dans notre pays. La plupart des sociologues ont déserté le domaine, un siècle après les travaux d'Émile Durkheim qui révélaient l'origine sociale du suicide. » Pourtant, le suicide est terriblement d'actualité. Chez nous d'abord, citoyens du monde industriel que l'on dit développé, un agriculteur se suicide tous les jours en France et les suicides dans les entreprises sont devenus un phénomène de société. Dans les populations autochtones ensuite, où l'on estime que les suicides sont en moyenne 2 à 3 fois plus élevés que dans les populations majoritaires. Comment expliquer ces faits dramatiques? Comment expliquer la discrétion des sciences sociales à leur sujet? Voilà ce à quoi les Voix du Crépuscule espèrent contribuer ce soir. Pour ce faire, nous avons invité Mary Picon, maître de conférence ou maîtresse de conférence à l'EHESS, japonisante, responsable depuis 2012 d'un séminaire intitulé « Anthropologie du suicide », qui est donc spécialiste du Japon et également de son histoire cinématographique. Nous avions également invité Sophie Gergaud, anthropologue visuelle également, docteur en ethnologie, cinéaste, militante des droits des peuples autochtones. Malheureusement, elle ne pourra pas être des nôtres et sa contribution va nous manquer. Nous pensons à elle et nous espérons qu'elle se rétablira très vite. Nous avons également avec nous Emmanuelle Bramban, historienne de la Martinique et qui nous parlera plus spécifiquement ce soir du tombeau des Caraïbes. Je vais donc commencer l'entretien directement avec vous, Mary Picon. Le titre de cette émission est en partie emprunté à celui de votre séminaire. Vous l'avez vu, c'est un plagiat que j'assume entièrement. Et j'aurais donc deux questions à vous poser. Qu'est-ce que l'étude anthropologique du suicide? Comment procède-t-elle? Et pourquoi avoir choisi d'orienter votre recherche et votre enseignement sur cette question? Alors oui, d'abord, qu'est-ce que l'anthropologie du suicide?
En fait, disons, j'avais pensé à cette question en partie parce qu'il s'agit d'un objet presque impossible pour l'anthropologie. La plupart du temps, même dans des sociétés où il y a un taux élevé de suicide, nous ne restons pas toujours si longtemps sur le terrain pour pouvoir l'observer de près. Et en plus, s'il advient, c'est très probable que la famille, les amis, etc., nous le cachent. Et évidemment, on n'a pas envie, d'entrer à ce point dans l'intimité et la souffrance, disons, de gens souvent amis, et essayer donc de donner une autre interprétation, de révéler un suicide au grand jour. Ensuite, la question plus qu'évidente, dans l'étude éventuellement de cas, soit nous avons pu peut-être, parler avec quelqu'un qui avait, disons, déjà des intentions plutôt suicidaires, quelqu'un de très triste qui se trouvait confronté à des situations difficiles, et éventuellement à des gens qui ont survécu à des tentatives. Donc, en fait, on tourne autour de la question. On pourrait aussi dire, et là, il me semble tout à fait légitime, et c'est une ressource que Durkheim, je pense, n'aurait jamais eue, c'est qu'en tant qu'anthropologue, nous pouvons, finalement, par le truchement donc religieux, parler directement avec les âmes des suicidés. Par exemple, disons, dans les cultures.
Parler directement avec les âmes des suicidés.
Bien sûr.
En tant qu'anthropologue, vous avez ce pouvoir. Expliquez-nous ça.
Disons, hélas, le pouvoir ne nous vient pas de notre spécificité d'anthropologue, mais tout simplement de ressources sur le terrain à l'intérieur de la religiosité populaire chez certaines populations. Et au fond, en France aussi. Si vous allez chez des médiums, ou l'équivalent des chamans, des divins, etc., on a donc la possibilité, en théorie, d'entendre au moment de séance de possession, donc l'âme du suicidé qui revient, en général par ailleurs dans un état pas très enthousiasmant, en général souffrant et inquiet, et qui donc va parler peut-être de sa destinée dans l'au-delà.
C'est vrai qu'a priori, on se demande comment est possible l'anthropologie et l'ethnographie du suicide, parce que non seulement on sait que quelqu'un s'est suicidé après sa mort, donc faire l'ethnographie de sa vie avant son suicide, c'est impossible, mais en plus, très souvent, dans beaucoup de cultures, en tout cas dans la nôtre, on cache les suicides, on essaye de les maquiller. Il semblerait qu'en URSS, on ait maquillé un nombre incroyable de suicides en mort plus ou moins naturelle. Donc, une fois qu'on est sur le terrain, après le suicide, il est parfois difficile d'avoir accès réellement à ce qui s'est produit, parce qu'on cache la vérité, et c'est une vérité un petit peu honteuse. Je ne sais pas si au Japon, vous avez ce genre de phénomène.
Ah, tout à fait. Et justement, un des points en tant que japonisante, c'est exactement ça, le décalage entre la vision, disons, très répandue en Occident, mais même au Japon, assez courante, donc de penser que le suicide est vu comme un acte noble et positif, et la réalité, au contraire, qui consiste toujours dans un désir, soit carrément de cacher, et qui est parfois dû à des situations tout simplement pratiques. Par exemple, quelqu'un qui se jette sous un train doit payer une amende énorme à la compagnie qui gère la ligne.
Donc sa famille paiera cette amende.
Oui, sa famille paiera l'amende. Alors on a des tuyaux, on sait que certaines lignes font payer moins cher. Donc,
c'est vrai?
Oui.
C'est incroyable ce que vous dites là. Là, on entre vraiment dans l'ethnographie des techniques de suicide avec tout ce qu'elles ont de macabre et de difficilement compréhensible pour nous. C'est-à-dire qu'on se pose la question sous quel train je vais me jeter parce que ça mettra ma famille dans moins d'embarras si la ligne fait payer moins cher l'amende.
Et hélas, ça, disons, on n'est même pas à l'abri si on reste chez soi, parce que ceux qui se suicident à l'intérieur d'une habitation, s'il leur appartient ou s'ils louent, sont alors à ce moment-là, et c'est bien sûr toujours la famille, donc sujet, encore une fois, à une amende, parce que la valeur du logement, pour des raisons légales, est considérée comme étant diminuée de moitié pendant plusieurs années. Et en fait, c'est peut-être même un tuyau pour les malheureux qui doivent chercher un logement à Tokyo. Alors ces logements-là, on peut les retrouver, on peut les louer pour moitié moins cher. Mais le propriétaire du logement devra faire une cérémonie de purification, souvent shinto ou alors parfois bouddhiste, qu'il fait payer, bien entendu, toujours à la malheureuse famille du suicidé.
Peut-être juste une précision, vous dites shinto ou bouddhiste, quelle est un peu la configuration spirituelle du Japon, dont la religion autochtone est le shintoïsme, mais qui sont en même temps souvent bouddhistes? On peut mélanger les deux.
Oui, tout à fait. Il y a eu une période dans laquelle on a tenté, à l'origine de la modernisation, d'essayer de diviser, mais néanmoins, dans la pratique populaire, on peut simplement avoir recours à l'un ou à l'autre, ou aller dans certains temples où il y a parfois des petits sanctuaires shinto à l'intérieur, donc du terrain, du temple, souvent des bâtiments mineurs, etc. Mais les deux, malgré tout, à la fois le shinto, parce que la mort contamine, donc est une souillure, donc thématique anthropologique majeure, donc il faut absolument avoir recours à des purifications. Dans le cas du bouddhisme, en revanche, en théorie, là on rentre dans un domaine difficile. On n'a pas peut-être une seule réponse, une seule attitude. Il n'y a pas une condamnation aussi nette que celle que le catholicisme nous avait réservée à une époque. Et peut-être, si je me permets de revenir 5 secondes à Durkheim,
oui.
Si on lit bien son ouvrage, à la fin, on voit bien que Durkheim, qui était à la recherche d'une chaire en sociologie qu'il n'aura jamais, avait essayé de se rendre utile. Et le dernier chapitre donc, de son ouvrage consiste dans une sorte de recommandation qu'il adressait donc, aux notables, aux autorités. Et il déclare qu'il faut condamner le suicide et voudrait donc des punitions nettement plus fortes que celles qui déjà étaient encore existantes à son époque. Donc ça, c'est du chantre de la laïcité, etc., etc. Ça choque, à mon avis, le lecteur actuel. Mais il dit que plus de punitions, revenir en arrière, n'aurait pas été accepté par la sensibilité donc de ses contemporains.
Et peut-être revenir sur votre approche de terrain du suicide. À quel moment, dans quelle perspective vous avez commencé à étudier le suicide au Japon?
Disons, il y avait plusieurs facteurs. Dès ma thèse, j'ai commencé à m'occuper de rites de la mort et représentations de la mort, en me focalisant toujours plus sur ce qu'on pourrait appeler les mauvaises morts. Alors, bon, le suicide, évidemment, en est un, mais, disons, l'origine précise a été, en fait, une augmentation subite d'un taux déjà pas particulièrement bas de suicides au Japon, donc à partir de 1988.
Et 1988, précisément. Il y a une rupture en 1988.
Oui, précisément en 88. Disons, il n'est pas trop difficile, si on compare par exemple avec un bon proche en Corée du Sud, de le rapprocher. C'est une démonstration, hélas, d'économie pure, de l'application de procédures, disons, socio-économiques très claires, dans lesquelles on a éliminé beaucoup des possibilités donc, d'avoir recours à la sécurité, à différents types de sécurité sociale, de crise économique, et donc le résultat a été très très net d'après les statistiques. Évidemment, ce n'est pas la seule cause, évidemment, tous les suicides ne dépendent pas de ça, mais...
Et qui se suicide au Japon? Parce que c'est vrai que vous devez rencontrer ces clichés très souvent en tant que japonisante, mais le Japon représente les suicides. Il y a le suicide des jeunes aujourd'hui, il y avait le suicide des kamikazes pendant la Seconde Guerre mondiale, et il y avait le seppuku des samouraïs par le passé, dont le suicide de Mishima a été une des dernières occurrences. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, les kamikazes et le seppuku, c'est plus monnaie courante. On ne se suicide pas de la même façon. Comment est-ce qu'on se suicide, donc à partir de 1988, et quelles sont les populations touchées au Japon?
Disons, on a parlé du suicide des jeunes parce que, évidemment, ça choque davantage. On le considère des morts qu'on pourrait beaucoup plus facilement éviter. On a parlé en partie, du suicide lié à des hommes d'âge moyen, justement, conséquence en général du travail, soit de la perte de l'emploi, soit, disons, de forme d'harcèlement moral, soit encore, d'un désir de la part, de leur entreprise, de les obliger à travailler jusqu'à l'épuisement total. Et justement, une des caractéristiques, les Japonais ont plusieurs mots pour différents types de morts, quelque chose qu'on appelle le karoshi, c'est-à-dire la mort donc par excès de travail. Et, en cela, les Japonais ne se distinguent pas trop, aussi les suicides de gens âgés, et les Japonais vivent de plus en plus vieux, donc confrontés évidemment à l'isolement, à la maladie et à la douleur.
Et alors vous entrez donc dans l'étude du suicide, l'ethnographie du suicide, par l'étude des mauvaises morts, ce que vous appelez les mauvaises morts. Et comment est-ce que, concrètement, vous y êtes pris pour enquêter sur cette mauvaise mort qu'est le suicide? Vous avez interviewé les familles des suicidés, vous êtes allé habiter dans des régions particulièrement touchées par le suicide.
Disons, j'avais commencé avec cette idée et je voulais, parce que j'essaye d'utiliser à la fois des méthodologies et des thèmes liés à ce qu'on appelle, disons de façon très très générale, une anthropologie médicale et des formes d'anthropologie religieuse. J'essaye de rénover l'une en ayant recours à l'autre. Et j'avais donc déjà, avant, au début de cette période de terrain, j'avais déjà pris des accords pour des entretiens, par exemple avec des temples où, disons, les prêtres bouddhistes célébraient des rituels de commémoration de l'âme des suicides, ou avaient des groupes, par exemple, où on célébrait justement des formes de rituels pour consoler les familiers, donc de gens qui s'étaient suicidés. Mais, et c'est là où la chose, malheureusement, a pris tout à fait une autre tournure. Donc, je suis arrivée 15 heures juste avant le désastre de Fukushima.
15 heures avant, oui.
Vous ne pouviez
pas plus mal choisir votre moment.
Et pire que ça, j'avais un autre thème, proche par ailleurs, très proche, parce que je voulais voir par ailleurs le problème des suicides chez les gens en grande pauvreté, qu'en général sont complètement ignorés et, à mon avis, minorés dans les statistiques. Et j'avais donc cherché qu'est-ce qu'il en était de la disposition justement de cadavres non identifiés. Donc ce thème devenait toujours plus une sorte de farce macabre, abominable. Et à la fin, ce qui était la procédure pour les chercheurs qui n'habitaient pas, qui n'étaient pas en poste directement au Japon, mais qui étaient là pendant des courtes périodes, donc on m'a demandé officiellement, donc le président donc de mon université, de l'école des hautes études en sciences sociales, m'a demandé de rentrer parce que c'était la politique du gouvernement français. Cela dit, je pense que j'aurais préféré rentrer parce que mes questions auraient été, il me semble, quand même vraiment de trop dans cette horrible circonstance qui a frappé la totalité donc de la population japonaise, y compris par ailleurs à Tokyo. Croyez-moi, on n'était vraiment pas bien. Les conséquences n'étaient pas limitées, la zone tout autour de Fukushima.
C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas qu'une étude finalement d'anthropologie générale puisse être rendue impossible par des circonstances même un peu exceptionnelles. On se dit que on aura toujours moyen de faire une recherche, mais là, effectivement, quand on est face à une catastrophe naturelle suivie d'une catastrophe écologique et d'une catastrophe nationale, effectivement, le pays est tellement ébranlé qu'on imagine mal une enquête se poursuivre. Je vais me tourner vers vous, Emmanuel Brambant. Je suis désolé, je ne vous ai pas beaucoup adressé la parole jusqu'à maintenant, mais je voulais savoir si vous aviez peut-être... oui, prenez le micro, n'hésitez pas. Si vous aviez... vous êtes historienne, donc historienne de la Martinique. Vous allez nous parler tout à l'heure du tombeau des Caraïbes, mais vous avez peut-être des choses à nous dire sur la façon dont vous avez enquêté sur le suicide. Est-ce que c'est un domaine qui est important pour vous, ou vous l'avez rencontré comme finalement un des éléments de cette histoire douloureuse de la Martinique et des Caraïbes?
Alors, la notion de suicide au niveau des populations, tant qu'elles soient martiniquaises, autant au niveau des populations caraïbes, c'est-à-dire les populations autochtones passées. La notion de suicide, c'est plutôt une notion un peu impropre, en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'était des populations qui... Le suicide aurait été une forme de reddition pour ces populations, une forme d'abandon, une forme de désespérance. Et ça ne cadre pas avec leur mode de vie, justement, qui est un peu plutôt guerrier. Un peuple de navigateurs, un peuple assez structuré, assez bien structuré dans son fonctionnement social.
Là, vous parlez du peuple que rencontre Christophe Colomb aux Bahamas, les Taïnos.
Pour les populations caraïbes, Kalinago. Et donc, du coup, c'est une notion qui est un peu impropre. Pour les populations martiniquaises, on va pas, là, on est à l'époque plus ou moins contemporaine. La forme de suicide va être plus ou moins liée avec la religion, la culture religieuse catholique qui est très présente sur l'île. Et si c'est pas la religion catholique, ça va être d'autres religions toujours liées au christianisme.
Alors quand vous dites très liées, justement, Durkheim étudie dans Le Suicide la différence entre protestantisme et catholicisme et montre que les protestants se suicident beaucoup plus que les catholiques, de manière générale. Donc il en déduit que le catholicisme intègre plus l'Église catholique intègre plus ses ouailles, tandis que le protestantisme, en laissant davantage les fidèles à leur libre arbitre, leur permet une individualisation plus grande qui les rend aussi plus vulnérables face au suicide. Est-ce que en Martinique on observe cela?
Oui et non, parce que ça c'est, il faut rajouter aussi le contexte historique qui est très spécifique, d'une population qui a vécu dans, qui est issue d'une violence, qui est issue d'une double violence. Elle est née d'une extermination d'un peuple, d'une appropriation d'un territoire et d'une déportation d'un autre peuple qui a été soumis à l'état de l'esclavage. Donc il y a eu plusieurs faits de marronnage, plusieurs faits de résistance, et en même temps l'histoire est très compliquée. Donc il y a une violence qui est quand même assez particulière dans la constitution du peuple, qui est du peuple martiniquais. Et donc c'est une forme, le suicide, qui est aussi une forme de violence infligée à soi-même, se juxtapose justement avec la culture judéo-chrétienne qui est quand même bien présente dans l'île. Donc il y a toujours dans les populations cette notion d'énorme douleur, dès qu'il y a quelqu'un qui se suicide, d'énorme douleur, d'énorme tristesse et d'énorme honte aussi, parce qu'il y a le phénomène de culpabilisation aussi. Culpabilisation des uns et des autres pour se dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, et culpabilisation des uns et des autres parce que ce n'est pas un acte qui est très bien intégré dans la pratique religieuse qui est quand même assez bien marquée dans l'île, quoi.
Alors je crois que le moment est venu de faire un point un peu théorique sur le suicide, puisqu'on a évoqué Durkheim comme ça, on évoquera certainement Jean Becker ou d'autres penseurs du suicide comme phénomène social. Et Marion nous a préparé une chronique sur l'histoire des théories sociologiques du suicide.
Alors bien évidemment, on peut s'intéresser à l'étude du suicide sans penser à Durkheim. En récoltant de nombreuses statistiques officielles en France, en Prusse, en Angleterre ou au Danemark, il a cherché des corrélations. On apprend ainsi qu'au XIXe siècle, on se tue plus en ville qu'à la campagne, plus si on est un homme qu'une femme, si l'on est célibataire ou veuf que si l'on vit en famille, en temps de paix qu'en temps de guerre. Au plus on a d'enfants, au moins on se suicide. Et le taux de suicide varie aussi selon les religions, donc les protestants se suicident plus que les catholiques et ces derniers plus que les juifs. Durkheim cherche donc à savoir comment se tisse le lien social dans les nouvelles sociétés industrialisées. Et le suicide constitue un dysfonctionnement de ce lien social. Il établit alors une typologie des formes de suicide en distinguant le suicide altruiste, égoïste et anomique. Le suicide altruiste est en perte de vitesse car il concerne des individus trop intégrés et qui ne supportent pas de faillir aux règles de leur groupe. Par exemple, les militaires de carrière se suicident plus que les civils. Les deux autres formes de suicide, en revanche, sont symptomatiques des transformations sociales de l'époque. Le suicide égoïste, que l'on appellerait plutôt aujourd'hui individualiste, provient directement d'un défaut d'intégration, d'une perte de repères, d'un isolement. Et si les protestants se suicident plus que les catholiques, c'est que leur religion laisse davantage l'individus face à lui-même. Le suicide anomique, l'anomie étant une absence de normes, met en évidence certains dérèglements des sociétés modernes qui conduisent les individus à trop espérer et à ne plus être capables de contenir leurs désirs, comme par exemple certains industriels qui se sont enrichis trop vite. Durkheim arrive alors à la conclusion que le suicide varie en fonction inverse du degré d'intégration des groupes sociaux dont fait partie l'individu, et que l'augmentation du suicide, constatée tout au long du XIXe siècle, est l'indice d'une misère morale, due à l'affaiblissement des anciens cadres de sociabilité. Restée dans l'ombre jusqu'aux années 60, l'œuvre de Durkheim est devenue depuis une référence en sociologie. À tel point d'ailleurs que d'autres études, comme celle du sociologue Maurice Holbach, qui remettait en question certains résultats de Durkheim, en furent totalement estompées. Maurice Halbach publie Les causes du suicide en 1930 et très vite ce livre devient introuvable. Il constitue pourtant un important prolongement au travail de Durkheim qu'il va étoffer et actualiser avec davantage de statistiques. Halbach rejette le concept d'intégration comme ressort explicatif d'ensemble. Il rejette ainsi la fameuse typologie distinguant les suicides égoïstes, altruistes et anomiques. Selon Halbach, la nouvelle société qui émerge à la fin du XIXe siècle, suite au bouleversement causé par l'industrialisation, n'est pas une société désordonnée, régie par des pulsions et des initiatives individuelles. Au contraire, elle serait plus normative que l'ancienne, car dominée par la loi du marché. Il condamne ainsi le concept d'anomie qui expliquait chez Durkheim l'accroissement spectaculaire des suicides, provoqué par le passage d'une société rurale, artisanale et religieuse à une société urbaine, industrielle et laïque. Durkheim a fondé une grande partie de sa théorie du suicide sur le fait que les protestants se suicidaient plus que les catholiques. Le penchant du protestantisme pour le suicide serait en rapport avec l'esprit de libre examen. Le libre examen résulte lui-même de l'ébranlement des croyances traditionnelles. Plus un groupe confessionnel est absent de la vie des individus, moins il a de cohésion et de vitalité. Halbach remarque que, d'un strict point de vue de statistique, il est impossible d'isoler à l'état pur le facteur religieux et de mesurer son action. Il faut prendre garde de ne pas attribuer à la religion ce qui résulte du milieu. Et la religion est elle-même une composante du milieu. Émile Durkheim faisait de la crise le ressort explicatif principal de la relation entre suicide et croissance économique. Les catégories sociales les plus pauvres se suicideraient moins que les autres. La misère protège, écrit-il. Les crises de prospérité créent de nouveaux riches animés de besoins infinis qui se trouvent par là plus exposés au risque du suicide. 30 ans plus tard, Maurice Halbach critique les indicateurs retenus par Durkheim, en particulier l'indice des prix, qui ne rend pas compte des crises financières. Il souligne d'une part la grande difficulté d'isoler un effet pur de l'économie sur le suicide. Lorsqu'on examine aujourd'hui pour l'ensemble des pays du monde la relation entre la richesse, mesurée par le PIB, et le taux de suicide, on observe que plus un pays est riche, plus le niveau de suicide est élevé. On pourrait donc imputer les taux élevés de suicide soit à la richesse en elle-même, l'oisiveté, l'ennui, la saturation des désirs, soit à des réalités sociales qui lui sont généralement associées, comme l'urbanisation, l'esprit de compétition, la montée de l'individualisme, le vieillissement de la population ou la baisse de la fécondité. Mais dans les pays les plus riches, le suicide est plus fort dans les périphéries les plus pauvres. Ainsi, aux États-Unis, les États les plus urbanisés et les plus riches ont le taux de suicide le plus faible. Il en va de même en France ou au Japon. Et partout où nous disposons de statistiques sur la profession des suicidés, c'est en bas de l'échelle sociale que le suicide bat son plein aujourd'hui. Les données nous confrontent donc à une contradiction. Si l'on se tient à la statistique internationale, on conclut à un effet massif de la richesse sur le suicide. Le développement économique aboutirait à des désaffections à l'égard de la vie et des désespoirs engendrés par les forces morales associées au progrès. On serait alors dans le droit fil des explications de Durkheim. Mais les données nationales disponibles sur les pays les plus riches vont dans un sens entièrement opposé. C'est dans les régions et les catégories sociales laissées pour compte par le développement que le suicide est le plus fort. Halbach aurait donc vu juste également.
Merci Marion. Oui, c'est vrai que ce paradoxe est intéressant, comme celui que souligne Durkheim quand il montre que des commerçants et des industriels s'étant enrichis très rapidement étaient plus susceptibles de se suicider au milieu du 19e siècle que ne l'étaient les agriculteurs. C'est vrai qu'a priori, on a du mal à comprendre cela. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est les agriculteurs qui sont les plus susceptibles de se suicider, en France en tout cas. J'aimerais que peut-être, Mary Picon, qu'on revienne sur les grandes explications du phénomène du suicide et sur le fait que, malgré tout, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Quand je dis les grandes explications, vous dites qu'il n'y a pas tellement de théories du suicide et pas tellement, en tout cas, de travaux sur le suicide. Michel Fize dit la même chose. Alors, est-ce que ça veut dire que Durkheim et ses successeurs ou ses contradicteurs ont tout expliqué ? On a tout compris ? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a une incompréhension, une incapacité de prendre conscience de ce phénomène ou de l'analyser? Comment est-ce qu'on peut comprendre cela?
Il existe une littérature assez importante sur le suicide, simplement elle est passée, disons, dans d'autres domaines et elle a quitté les sciences sociales. Aujourd'hui, elle est écrite surtout par une énorme quantité de psychiatres, en partie certains psychanalystes et psychologues. Et donc, on la retrouve en masse dans les bases de données, de la clinique. Et comme ça, c'est beaucoup moins accessible, en fait, pour, le profane qui aurait envie de trouver des nouvelles théories. Les anthropologues, c'est tout à fait vrai, ne l'ont pas totalement oublié. Par exemple, il y a eu une conférence sur ce sujet en 2008, et si on retrouve dans des bases de données, on peut voir des articles qui apparaissent de temps en temps et quelques numéros spéciaux de revues. Cela dit, les gros livres, justement, l'équivalent de quelque chose qui aurait pu être Durkheim ou Halbwachs, effectivement, on ne les a pas trouvés. On peut aussi voir d'autres biais. Par exemple, je suis en désaccord avec l'idée que autrefois, qui est toujours indiqué comme une sorte de division manichéenne entre le présent et le passé, il y avait donc des liens sociaux qui apparemment marchaient de façon parfaite et qui évidemment ont été altérés par des changements sociaux. Alors, curieusement, si on regarde en arrière, ce qu'on voit comme étant la désintégration de liens sociaux aujourd'hui seront exactement les mêmes qu'à l'époque de Durkheim, parce qu'il y a une sorte de, comment dire, d'escalateur chronologique. Ce sont au contraire, donc on se réfère à une époque que Durkheim voyait comme au contraire pleine justement d'anomie et qui, à nos yeux aujourd'hui, apparaît au contraire comme étant celle d'une harmonie sociale très aboutie. Donc déjà, c'est une première contradiction. Ensuite, on a pris aussi d'autres thèmes, par exemple l'idée de la dépression, un élargissement à travers donc des thématiques médicales qui sont entrées, dans les usages, par exemple, de catégories utilisées couramment par les politiques. Donc l'idée que tous ceux qui se suicident sont des gens déprimés. Donc il n'y a pas de suicide qui ne soit pas pathologique. Alors évidemment, ça dépasse et l'anthropologue ne peut pas être convié à donner un diagnostic de quelque chose qui peut être vu comme une pathologie. Mais peut-être que des anthropologues ou des sociologues peuvent dire que la diffusion de cette catégorie est en elle-même quelque chose qui est lié, par exemple, à la volonté à la fois d'une uniformisation de politique genre fait par l'Organisation mondiale de la santé et par ailleurs par les industries pharmaceutiques qui ont tout intérêt à vendre justement toute une série de médicaments. Et notamment dans le cas du Japon, les autres grandes compagnies avaient renoncé pendant un moment à vendre justement toute une série de médicaments parce qu'ils prétendaient qu'au Japon, on ne voulait pas reconnaître donc, la catégorie de la dépression. Et puis, petit à petit, au contraire, cet élargissement a eu lieu. Et donc, les Japonais sont maintenant, en théorie, aussi déprimés que tous les autres.
Mais finalement, ça ne fait que reporter le problème. Si jamais, on peut toujours considérer que le sociologue et l'anthropologue ont leur place et parce qu'ils peuvent expliquer comment la dépression et les maladies psychiques sont des phénomènes de société qui sont reliés à des contextes sociaux différents. Donc, mais apparemment, les sociologues ne s'intéressent pas davantage à la dépression. Bon, si, il y a des travaux sur la dépression, c'est vrai. Mais en tout cas, ça ne suffit pas, ces travaux-là ne suffisent pas en sociologie de la santé pour dire qu'aujourd'hui, on comprend mieux le suicide.
Disons, plus on pense le comprendre, à mon avis, moins on le comprend. Mais ça, c'est une opinion peut-être personnelle. Et justement, qu'on arrive à faire des sommes, et malheureusement, malgré certains aspects positifs, et je parle à titre personnel de Bachelard, par exemple, la condamnation de la psychanalyse et le fait de démystifier un peu Durkheim m'ont paru positifs. Néanmoins, le fait d'avoir fait, dans une somme de 664 pages, le tour de la question, disons, me paraît, plus on arrive à trouver une typologie nette, à mon avis, plus on s'éloigne de la possibilité du phénomène, on gomme des spécificités, peut-être pas toujours culturelles, mais on accepte donc la diffusion de catégories, d'émotions, d'états, à la fois parfois économiques, d'émotions, tout ça, qui malheureusement ne peuvent pas se prêter, pour moi, à l'idée du big data aujourd'hui qui devrait résoudre la totalité de nos problèmes ne me paraît pas, malgré tout, d'après les anthropologues, avoir un avenir très positif.
Et est-ce que le fait que, justement, des organisations comme l'OMS que de manière générale, on prenne le suicide par l'angle d'un problème de santé publique, parce que c'en est un, c'est vrai qu'il faut le reconnaître, c'en est un, il s'agit de le prévenir, on en parlera dans la dernière partie de cette émission. Est-ce que ça n'oriente pas le fait que, voilà, pour la question, pour les pouvoirs publics, le suicide est avant tout un problème de prévention, et donc naturellement, les scientifiques et les travaux qui se tournent sur le suicide s'attachent davantage finalement à des travaux... à être des travaux de psychologie ou de sociologie appliqués pour tâcher de mettre en place des programmes de prévention du suicide.
Au Japon, on a mis en place des programmes et le suicide n'a pas diminué pour autant.
Ça n'a pas marché ?
Non.
Non.
Et disons, plus on psychologise, plus on individualise et plus on s'éloigne, disons, de possibilités de changement de certains aspects, isolement des vieux à la campagne, conditions de travail, etc. Ce n'est pas suffisant, mais disons, s'il fallait avoir des ressources, on pourrait peut-être les investir autrement que dans des énormes programmes psychologiques. Cela dit, mais ça, ce sont, à certains moments, je sors, si l'on veut, de mon rôle quand même limité d'anthropologue pour exprimer peut-être des opinions qui ont aussi, finalement, quelques aspects au sens large politique.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que le constat que vous faites sur le Japon, sur l'inefficacité de ces mesures, de ces plans de prévention psychologique, peut être fait ailleurs qu'au Japon ? Je ne sais pas, par exemple, ce qu'il en est en France. Est-ce que ça ne veut pas dire, tout simplement, qu'on est un peu démunis face à un problème qui est structurel ? Enfin, si on prend, en tout cas, les travaux de Durkheim, c'est un problème réellement structurel, macro-social. Quand il s'agit de développer quelques équipes d'urgence ou ce qu'on appelle des gatekeepers dans les familles ou dans les communautés qui sont là pour observer les personnages potentiellement suicidaires, finalement, on agit... à la dernière étape du processus qui conduit au suicide. On est un peu impuissant.
Les programmes appliqués au Japon sont dérivés d'un modèle finlandais. C'était parce qu'en Finlande, il paraît, mais là déjà je m'avance un peu parce que je n'ai pas du tout étudié la situation finlandaise, il paraît que justement ça a eu un certain effet. Malheureusement, donc je peux confirmer que dans d'autres pays, pour le moment, ça n'a pas eu lieu. Pour moi, une des causes de l'augmentation du suicide est tout simplement le fait d'avoir des statistiques, disons, reprises de façon enregistrée de façon différente.
Ah, donc pour vous, c'est un artefact statistique ?
Pas complètement, bien entendu, mais en partie, oui.
En partie, c'est ça. C'est-à-dire qu'on prend en compte des cas qui n'étaient pas pris en compte par le passé.
Bizarrement, il y a les deux. Dans le cas du Japon, justement parce que j'avais cherché ces corps abandonnés qu'on retrouvait, j'avais tenté, par exemple, une autre approche qui peut-être était plus anthropologique, c'est-à-dire de chercher, d'examiner le suicide à partir de sites où l'on se suicidait. Ça me paraissait non pas une solution meilleure que d'autres, mais elle avait été moins tentée. Et donc, je me disais, je peux essayer plus ou moins d'innover, de voir donc sous un autre angle. Alors, par exemple, au Japon, il y a une forêt qui s'appelle Aokigahara, ou Dukai, qu'on appelle aussi la mère des arbres, donc je traduis littéralement. Et dans cette forêt, les gens, justement, comme je vous disais, pour ne pas diminuer la valeur, par exemple, de leur maison, mais ce n'est pas la seule raison, ou une communion avec la nature, ou parce que c'est un site à la mode, ou pour des tas de raisons, choisissent d'aller sur ce lieu. Mais, il a donc été encerclée, cette forêt qui est très grande au pied du mont Fuji a été encerclée par une sorte de barrière qui n'est pas du tout étanche mais simplement constituée par des pancartes où on invite les gens à réfléchir, des tentatives, donc des personnes font donc des rondes pour essayer de bloquer des personnes qui entrent. Et ils les choisissent un peu selon l'expression qu'ils peuvent avoir, parce qu'il est au fond légitime de s'approcher de ces lieux. Donc là, c'est, on voit en partie les politiques en acte. Néanmoins, ce qui s'est passé, pour regarder les statistiques, c'est qu'ils ont vu qu'à une époque, on pouvait encore publier les statistiques, et qu'on était arrivé à une estimation, parce qu'on ne retrouve pas tous les corps, à quelque chose comme 100 cadavres par an. Cela dit, il y a des personnes qui entrent et décident à la fin donc, de ressortir, donc arrivent à survivre à leur tentative.
Alors 100 cadavres par an, c'est énorme pour un seul site. Hein. Il faut donner des ordres de grandeur. Le suicide, on le mesure en pour 100 000. Donc, par exemple, un taux de suicide élevé, c'est au Japon, c'est combien déjà 30 pour 100 000, je ne sais plus.
Oui, c'est ça.
C'est cet ordre de grandeur.
Oui, ça tourne autour de ça. À un moment, voilà. Il est arrivé, je crois, à 32 %. C'était un pic et je crois que maintenant, il a légèrement descendu.
C'est vrai que nos auditeurs ne savent pas forcément qu'on mesure le suicide comme ça. Et donc, quand on dit qu'un agriculteur se suicide tous les jours, c'est énorme. C'est énorme, c'est beaucoup plus que dans les autres professions. Donc voilà, il faut avoir cette idée-là en tête. C'était simplement une petite parenthèse.
Et disons simplement, toujours pour revenir à ces statistiques qui, justement, depuis Durkheim, continuent d'obséder toute une série de décideurs et de gens qui mettent en œuvre des politiques. Donc, en fait, on a décidé de ne plus publier les statistiques parce que l'idée même donc, de la popularité du site, l'idée de la contagion du suicide, qui n'est pas quand même, qui ne date pas d'aujourd'hui, donc portait plus de personnes à choisir ce site et peut-être, mais on ne le sait pas, est-ce que vraiment elles n'auraient pas eu d'autres choix de type non facilement détectable. Par exemple, toute la catégorie ambiguë de comportement dit à risque. Et là, qui décide? Et pire encore, mais là, c'est peut-être mon tempérament pessimiste. C'est de ce point de vue-là, peut-être, je m'approche un peu du suicide, mais pas pour d'autres biais. Par exemple, les Japonais, pour des raisons de coût, ont décidé de cesser pratiquement de pratiquer des autopsies. Donc, si on regarde, par exemple, ce qui se passe en Suède, où, au contraire, les autopsies sont pratiquées très, très souvent, dans le cas de mort où il y a même l'ombre d'un suspect qu'il puisse, qu'on ne sait pas s'il s'agit effectivement d'un suicide ou peut-être d'un meurtre maquillé. Alors dans ce cas, donc, on ne sait pas, les possibilités donc, de décider qu'est-ce que c'est qu'un suicide sont à mon avis toujours brouillées. À différents niveaux de décision, à différents niveaux de décision de catégorie.
Oui, c'est intéressant à savoir. Parce que dans les cas où l'autopsie est systématique, il y a plus de chances qu'on détecte des suicides que dans les cas où on ne fait jamais d'autopsie.
Oui.
La catégorie naturelle sera celle d'une mort naturelle ou autre que le suicide.
Exactement.
Oui. Donc, encore une fois, on a une preuve qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution les statistiques nationales, quand on les a. Je vous propose maintenant de faire une petite pause en son, en reportage, puisque Pascal est allé assister à une commémoration, non, commémoration n'est pas le bon mot, à une célébration des 20 ans de la naissance du mouvement zapatiste au Mexique, du mouvement néo-zapatiste plus exactement, et de la constitution de l'Ejército Zapatista de Liberación Nacional, l'armée libre de libération nationale du Mexique. Donc je vous propose de faire une pause en écoutant ce carnet sonore.
Emiliano Zapata, manifiesto zapatista de Nahuatl.
Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est le zapatisme ?
Alors écoute, d'abord, je dois te dire, je suis membre du CSPCL. On est donc une assemblée, un groupe informel. Et moi, je participe là depuis plusieurs années. Et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois des séjours au Mexique. Pour moi, les zapatistes sont avant tout des indigènes du Chiapas, c'est-à-dire du sud du Mexique, près de la frontière du Guatemala. Et c'est un peuple qui s'est rebellé en 1994, qui s'est révolté contre le gouvernement, au moment où donc entrait en vigueur l'ALENA, le traité de libre-échange entre Canada, États-Unis et Mexique, qui prétendait faire entrer le Mexique dans le premier monde, mais qui en fait laissait pour compte complètement les classes populaires et plus significativement les peuples indigènes. Donc les zapatistes, ce sont les indigènes qui se sont révoltés au cri de Yabasta pour dire non, ça suffit, nous voulons exister, nous voulons être pris en compte.
A los pueblos y gobiernos del mundo. Hermano, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo.
Ce zapatisme des années 90, c'est pas tout à fait le même que le zapatisme de 1910, c'est ça ?
Pas tout à fait, bien que, non, pas tout à fait, bien sûr, bien que en 1910, Zapata forma une guerre, forma une armée paysanne et réclama le droit à la terre pour les paysans. Hein, c'était terre et liberté. Et c'était la terre est à ceux qui la travaillent. Et ça aboutit bon, à des projets de réforme agraire qui n'ont jamais été finalisés. Mais dans l'esprit de la révolution mexicaine, il y avait ça. Très fortement.
Donc oui, je te demandais quels étaient les principes du zapatisme depuis 1994.
Oui, oui. Alors, il y a un point, je crois, très important, c'est le fait que c'est une révolution qui ne vise pas la prise du pouvoir. Donc, contrairement aux révolutions classiques qui visaient le renversement du gouvernement pour prendre la place, et donc remplacer une oppression par une autre, souvent, là, les zapatistes ne visent pas la prise du pouvoir. Ils demandent simplement le respect, la prise en compte de leurs droits et aussi de leur identité, de ce qu'ils sont. Voilà.
Est-ce que ça marche, la révolution zapatiste ? Qu'est-ce qu'elle donne ? Est-ce qu'elle avance ?
Écoute, tous les témoignages qu'on peut avoir manifestent que, bien sûr, ils se heurtent à beaucoup d'obstacles. D'abord, le fait que l'armée continue à les encercler et parfois à les harceler, à les menacer, et puis surtout en utilisant aussi des groupes paramilitaires qui cherchent à expulser les communautés des lieux, des terres qu'ils occupent, à menacer, à provoquer. Et donc, il y a beaucoup d'obstacles de l'extérieur. Au niveau interne, ils ont vraiment réussi, enfin, ils réussissent à construire pas à pas leur autonomie sous forme autogestionnaire. Sur le plan de l'éducation, avec les écoles, maintenant les écoles secondaires, sur le plan de la santé, avec des centres de santé dans les communautés, avec des cliniques dans les caracoles, dans les districts. Sur le plan aussi du développement de l'agriculture, sous la forme de l'agriculture organique, biologique. Réellement, là, ils ont fait des avancées considérables. Et puis, en développant les coopératives au niveau de la production, de certaines productions agricoles, et aussi au niveau de l'artisanat. Voilà.
Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal
Tout d'abord, je veux vous remercier au nom des paysans du monde, au nom des paysans de Via Campesina, pour l'espoir que vous avez soulevé le 1er janvier 1994 en entamant votre lutte. En combattant pour le droit des peuples indiens à leur culture, à leur terre et à leur dignité.
Luchando por la dignidad y la cultura de los pueblos indígenas.
Et en luttant en même temps contre l'entrée du Mexique dans le modèle global des États-Unis, vous avez montré que ces deux combats étaient un seul et même combat. Par ce combat, vous avez ouvert la voie à toutes les résistances qui existent aujourd'hui à travers le monde contre la globalisation. Et en même temps, vous avez donné espoir à toutes les communautés indigènes, qu'elles soient indiennes, qu'elles soient d'Asie, qu'elles soient d'Afrique, pour reconquérir, après la colonisation, votre dignité.
Alors, vous avez peut-être reconnu dans la dernière partie de ce carnet sonore la voix de José Bové qui s'adressait au nom de Villa Campesina au sous-commandant Marcos, donc le principal dirigeant et porte-parole du mouvement zapatiste, avec sa célèbre cagoule et sa célèbre pipe. Alors, ça n'est pas toi qui as fait cette interview de José Bové du sous-commandant Marcos, mais c'est toi qui as fait toutes les précédentes. Et donc, c'est à toi que je vais demander, Pascal, de réagir, d'expliquer peut-être ce qui n'a pas été dit. Enfin, évidemment, on ne peut pas tout dire en 5 minutes, mais ce que tu aurais envie d'ajouter sur cet anniversaire, ce 20e anniversaire du mouvement zapatiste.
Alors, on a pu entendre déjà quelqu'un du CSPCL, donc je voudrais dire ce que c'est que le CSPCL. C'est le comité de solidarité, alors solidarité au soutien, j'ai un doute, envers les peuples du Chiapas en lutte. Donc le Chiapas, c'est l'État au sud du Mexique où s'est produit ce soulèvement zapatiste en 1994. Donc le 1er janvier 1994, jour de l'entrée en vigueur de l'ALENA, l'Alliance de libre-échange nord-américain, qui faisait entrer encore plus le néolibéralisme au Mexique, qui semble avoir causé pas mal de dommages au Chiapas, le Chiapas qui est un État au Mexique qui a connu la réforme agraire suite au mouvement zapatiste du début du XXe siècle. Il a connu la réforme agraire plus tard que les autres, l'entrée du capitalisme plus tard que les autres. Tout ça s'est fait très vite et on a eu une espèce d'explosion dans cet État. Mais bon, le phénomène est assez complexe, mais effectivement, le mouvement zapatiste est aujourd'hui un exemple pour beaucoup de gens qui cherchent une alternative au modèle unique aujourd'hui, au modèle unique capitaliste néolibéral de notre monde, oui. Avec des villages qui construisent vraiment leur autonomie.
Et oui, je crois que c'est intéressant de souligner ce que disait José Bové quand il disait que le mouvement zapatiste représentait à la fois un mouvement de lutte, de reconnaissance des droits des peuples autochtones et en même temps un mouvement de lutte contre la globalisation. Et que c'est un mouvement donc local, à la fois très ancré sur la terre, sur le territoire que l'on peut exploiter de manière collective de préférence pour les apatistes et traditionnels, avec les savoir-faire traditionnels, et en même temps contre un ordre global. C'est peut-être ce que Idle No More, dont on a parlé précédemment dans cette émission et auquel on a consacré un carnet sonore, le mouvement indigéniste international Idle No More, essaie de synthétiser. J'espère en tout cas qu'il reprendra le flambeau du zapatisme. On va passer maintenant à la dernière partie de cette émission qui s'intéresse à la distinction entre le suicide autochtone et le suicide dans ce qu'on peut appeler les populations majoritaires, puisque les autochtones sont souvent appelés, dans le lot de noms qu'on utilise tant bien que mal pour les qualifier, les minorités ethniques, les minorités culturelles, eh bien c'est parce qu'il y a des majorités. Donc un fait indéniable, c'est que ces minorités se suicident plus. Encore une étude très récente en 2013, faite sur 4 pays anglophones, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, montrait que le taux moyen de suicide chez les autochtones, même s'il variait selon les régions, était entre 2 et 3 fois plus élevé que dans les populations majoritaires. Pourquoi ? La première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi ? Quelle différence peut-on faire dans l'analyse du suicide chez les autochtones ? Et dans les populations majoritaires. Alors, on parle beaucoup de lui, mais je crois qu'il faut encore revenir à lui, à Durkheim, parce que Durkheim proposait déjà cette explication. Je vais vous lire un extrait donc, du suicide, dans lequel il parle d'une forme particulière de suicide. Donc, dans sa catégorie, il y en a 4 qui caractériseraient particulièrement les populations autochtones. Le suicide altruiste. Quand on est habitué dès l'enfance à ne pas faire cas de la vie et à mépriser ceux qui y tiennent avec excès, il est inévitable qu'on s'en défasse pour le plus léger prétexte. On se décide sans peine à un sacrifice qui coûte si peu. Ces pratiques se rattachent donc à ce qu'il y a de plus fondamental dans la morale des sociétés primitives. Parce qu'elles ne peuvent se maintenir que si l'individu n'a pas d'intérêt propre, il faut qu'il soit dressé au renoncement et à une abnégation sans partage. Ces suicides sont dus à cet état d'impersonnalité ou, comme nous l'avons dit, d'altruisme, qui peut être regardé comme la caractéristique morale du primitif. Donc pour Durkheim, c'est très clair, le suicide primitif, c'est le suicide altruiste. Le suicide civilisé des populations industrielles, c'est le suicide égoïste. Et il y a, ça ne veut pas dire que le suicide altruiste a disparu, il existe des survivances du suicide altruiste dans, par exemple, le corps militaire. Pour lui, l'armée et sa discipline impersonnalisante produit des suicides altruistes comme les populations primitives en sont aussi le théâtre. Alors, avant qu'on parle du tombeau des Caraïbes et que Pascal prenne le relais, peut-être Mary Picon, est-ce que vous avez étudié, vous, cette question, la différence entre le suicide autochtone et le suicide des populations urbaines, industrielles, au Japon ?
Disons, au Japon, il y a désormais pratiquement plus de peuples autochtones. Les Aïnous ont été absorbés, exterminés d'abord, absorbés ensuite. Donc il existe encore une toute petite minorité.
Vous dites comment s'appellent ces
Aïnous. Et puis certaines populations de Okinawa peuvent être vues un peu par recoupement géographique comme étant, disons, des peuples autochtones.
Mais alors, ça, Okinawa, c'est une petite île qui n'est pas sur les 4 grandes îles du Japon. C'est très loin.
C'est un archipel, loin, disons, plus, peut-être plus proche de Taïwan, si l'on veut. Mais honnêtement, je n'ai pas étudié ça au Japon. Simplement, peut-être que là, on ressort et on revient à des textes, mais il existe donc un petit essai de Mauss publié en 1926 dans lequel il parle du problème de la mort par suggestion.
Par suggestion.
Oui, disons, il reprend une série de cas. Par ailleurs, à mon avis, extraordinairement douteux, parce que recueilli par l'explorateur de passage, le naturaliste qui avait passé 2 mois chez les aborigènes australiens, un peuple par ailleurs vu comme étant le plus inférieur connu.
Mauss et Durkheim reprennent cette façon de les désigner ?
Dans le cas de Durkheim, il voyait déjà les femmes comme bien inférieures. Elles se suicidaient moins parce que leur sensibilité était beaucoup plus rudimentaire. Donc je pense qu'il n'avait même pas besoin de s'en prendre particulièrement aux malheureux aborigènes australiens, puisque les primitifs étaient déjà parmi nous. Mais dans le cas de Mauss, qui... à mon avis, avait, mais ça c'est une opinion personnelle, à travers la lecture, était plus nuancée. Il est un peu obligé de reprendre des termes encore tout à fait courants à son époque, et donc il dit parmi les populations dites primitives ou dites inférieures. Et puis après, il reprend donc cette notion de primitif. Donc je crois qu'il fait une tentative de s'en sortir, mais il est un peu condamné à rester dans les classifications. Et c'est vrai aussi que les aborigènes australiens étaient vus comme étant vraiment les plus ce qu'on aurait pu à une autre époque appeler une civilisation simple. Mais ce qui comptait dans ce cas était justement le sommet de ce qui, au moins d'après la catégorie durkheimienne, aurait dû être vu comme un suicide fataliste, qui serait l'idée donc de quelqu'un qui est tellement embu, tellement parti de sa société, de la collectivité, que dès qu'il est vu comme ayant transgressé un interdit ou comme ayant été frappé par la malédiction d'un sorcier, alors il ne peut que mourir, quoi qu'il en soit de son état, physique, entre guillemets, réel. Et donc c'est l'adhésion aux valeurs de la collectivité qui le tue, aussi clairement et aussi vite que peut-être absorber un poison. Alors Mauss, évidemment, a été fasciné par cette idée, et il termine ce petit article en disant, curieusement, il dit que c'est une preuve donc du suicide anomique de Durkheim.
Alors, le suicide anomique, celui qui s'oppose au suicide fataliste, c'est par ces deux catégories, je rappelle simplement pour nos auditeurs, ces deux catégories, donc fataliste et anomique, s'opposent comme le suicide altruiste et égoïste s'oppose, mais sur le plan du processus de régulation sociale, tandis que c'est le processus d'intégration sociale qui est problématique. Parce que pour Durkheim, il y a deux grands processus de stabilisation de la société, l'intégration et la régulation. Et ces deux grands processus, lorsqu'ils sont en excès ou en défaut, causent des problèmes. Donc excès de régulation, vous avez le suicide fataliste. Défaut de régulation, vous avez le suicide anomique. Excès d'intégration, le suicide égoïste. Et défaut d'intégration, le suicide altruiste.
Il compare le type de suicide que Durkheim avait vu donc chez des peuples particulièrement civilisés, et donc il déclare au contraire que ce type de suicide-là serait exclusif, considéré comme propre à des peuples, justement, continuons avec ce mot, de primitif. Plus tard, en 1942, cette fois c'est plutôt un psychologue clinicien invente le terme de voodoo death, sans connaître donc la mort à travers donc de ceux qui sont frappés par l'acte insorcier. Mais il déjà d'après sa discipline, il le lit à des mécanismes qui seront mieux expliqués par la suite, genre arythmie cardiaque, sécrétion excessive d'adrénaline, etc. Bon, on rentre dans des discours médicaux, et donc à ce moment-là, on commence à se dire que ce n'est plus tellement primitif, c'est des morts qui sont provoquées par des facteurs, donc au contraire de ce mot impossible, de stress. Alors, dès qu'on entre dans le stress, on peut dire que toutes les morts, finalement, ont une composante de stress. Mais donc, on a brisé la barrière et les morts des autochtones ne sont plus, au contraire, différentes des nôtres. Et au contraire, alors, on a vu notre société comme étant plus affectée par le stress que ceux de ces bizarrement heureux indigènes qui, apparemment, dans leur désert, vivent une vie totalement pacifique et intégrée. Donc, ouais. On a une ironie claire.
D'accord. D'ailleurs, Durkheim n'a pas très beaucoup développé le suicide fataliste, en fait. Ça aurait pu être le suicide dont vous allez peut-être parler, le suicide des esclaves. Je crois que, d'ailleurs, Durkheim donne cet exemple. Mais il le développe très peu, si bien qu'on pensait même au début qu'il n'y avait que trois catégories dans la théorie de Durkheim. Alors je vais te laisser la parole maintenant, Pascal, parce que tu es plus compétent que moi pour parler des Caraïbes. Et on va s'intéresser à un cas à la fois très symbolique, mais aussi très controversé, de suicide autochtone et de suicide de masse, qui est matérialisé en un lieu physique, hein, un mémorial qui existe en Martinique, qui s'appelle le Tombeau des Caraïbes. Pascal, c'est à toi.
Au bord de la route entre Saint-Pierre et le Prêcheur, côte nord-ouest de la Martinique, se trouve une falaise qu'on appelle le Tombeau des Caraïbes, le Coffre la Mort ou encore la Roche, près de laquelle un mémorial, baptisé le Tombeau des Rebelles, a été érigé en 2002. C'est de là, de cette falaise, que se seraient jetés les derniers guerriers indigènes, donc les derniers des guerriers caraïbes de l'île, pour échapper aux colonisateurs français. Quand on lit les écrits sur Internet, on a parfois l'impression que ce suicide massif, qui aurait entraîné hommes, femmes, enfants, vieillards, aurait marqué la fin, la disparition définitive des indigènes en Martinique. Pour nous éclairer sur cette histoire qui ressemble fort à une légende, j'ai donc fait venir Emmanuel, une historienne d'origine martiniquaise qui a la particularité de connaître, ou en tout cas d'avoir la trace, de certains de ses ancêtres qui étaient caraïbes.
Oui, alors, l'histoire du tombeau des Caraïbes, c'est une histoire qui obtient à la fois de la légende et du mythe, qui repose sur un lieu d'existence précis, enfin plus ou moins précis, et une périodicité dans l'histoire aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cela se situerait aux alentours, l'histoire, enfin la légende, dans le temps, dans l'échelle, à l'échelle du temps, se situerait entre 1650 et 1658 à peu près, et sur le lieu dit en Martinique qui s'appelle le Monde des Sauteurs ou le Saut des Sauteurs. Qui est un endroit qui se trouve sur la route qui mène, qui conduit de la ville de Saint-Pierre au Prêcheur, sur un monticule, sur une falaise. Et donc ce serait à cet endroit particulier où effectivement la légende s'est forgée et s'est construite. Qui donne même nom, enfin, où la survivance actuelle, c'est parce qu'il y a un mémorial et qu'il y a aussi, dans le vernaculaire, il y a toujours eu ce nom-là qui s'est diffusé au fil du temps. Donc, il y a c'est quelque chose qui a quand même marqué. Et donc, la légende voudrait que. Enfin, il y a plusieurs éclairages. Alors, il y a plusieurs versions, justement. La première serait que, alors il faut que je rappelle aussi le contexte historique au moment des faits, c'est-à-dire que la Martinique, à partir de 1635, il y a eu la colonisation un petit peu plus intensive, il y a eu le fameux général, enfin le fameux gouverneur du Parenquet, et la colonisation qui a commencé, il y a eu une confrontation entre les populations caraïbes, Kalinago, et les populations européennes, les populations qui étaient là pour pouvoir peupler un petit peu plus l'île, introduire aussi les populations, les premières populations noires esclaves. Et donc l'île à ce moment-là était scindée en deux. Alors, il y a une première paix qui a été signée en 1639 entre les populations caraïbes et justement les autorités européennes, et qui séparait l'île en deux, c'est-à-dire que la Parentie sous le vent, la Parentie ouest était réservée aux populations européenne, et la Parentie exposée au vent, donc la Parentie est, la Parentie orientale, était réservée aux populations caraïbes.
C'était un apartheid.
Tout à fait. Une sorte d'apartheid. Voilà, c'était longitudinalement parlant, l'île était séparée en deux, en fait, du nord au sud. Et ça a une importance dans l'histoire du tombeau des Caraïbes, parce que, justement, le lieu du tombeau ne se trouve pas en territoire caraïbe, mais se trouve en territoire européen. Alors, l'histoire voudrait que, lors des guerres, lors des raids de conquête, d'expansion territoriale et de conquête territoriale, les chefs caraïbes et des guerriers caraïbes se seraient retrouvés acculés à cet endroit, et donc n'ayant pas d'autre possibilité, ou c'était combattre et mourir sur place, ou sachant, connaissant, parce qu'il y avait déjà des premières introductions de population noire dans l'île, donc on savait très bien qu'il y avait des débuts d'esclavage qui étaient pratiqués, parce qu'il y avait déjà la culture du tabac, il y avait déjà la culture, les premières cultures de canne à sucre qui se faisaient à ce moment-là. Donc face à l'ultime, ils avaient le choix entre se soumettre ou vivre dans la soumission, ou mourir libre. Et la légende veut qu'en fait, ils auraient sauté collectivement, et donc ils auraient préféré un ultime acte de rébellion et de guerrier. Donc ils auraient choisi la mort collective. Alors, il y a aussi l'éclairage pour dire qu'en fin de compte, ils auraient plus été poussés que... on les a plus poussés collectivement, on les a plus contraints collectivement à se tuer, etc. Il y a aussi... alors, dans l'historicité, au niveau des populations caraïbes, on trouve, et c'est là où la légende et le mythe se confrontent au réel de l'histoire et au réel des écrits et des traces. En fait, le lieu ne serait probablement pas en Martinique, mais probablement dans une autre île, qui serait l'île de Grenade, parce qu'on trouve une trace de mort collective. C'est très important, parce que il faut savoir que l'histoire n'était pas écrite par les autochtones, mais il était écrit soit par des laïcs.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Quelles sont les sources dont on
dispose
pour étudier ce tombeau des Caraïbes ?
Voilà, alors on a deux sources assez importantes, une religieuse et une qui vient d'un laïc. La première vient de l'ouvrage du père du tertre, qui s'appelle l'Histoire générale des Antilles, et qui date de 1667, qui a été écrite en 1667. Et l'autre source, qui est une source laïque, a été écrite par l'anonyme de Grenade, et qui, lui, l'anonyme de Grenade, il a écrit son ouvrage en 1659. Donc, et dans ces deux ouvrages, on trouve mention d'une mort collective exactement sous cette forme de récit, mais localisée dans l'île de Grenade. Alors, très vraisemblablement, ce qui a pu se passer en Martinique, c'est que ces populations en confrontation avec les autorités, enfin avec les colons dans les guerres de conquête de territoire, très vraisemblablement, les populations ont donc fui. Elles ne se seraient pas tuées collectivement. Elles auraient fui dans les îles avoisinantes, à savoir l'île de la Dominique, c'est-à-dire l'île qui est au nord de la Martinique, ou qu'elles auraient fui dans l'île de Grenade et dans l'île de Saint-Vincent, parce qu'on a, de très grands foyers de peuplement caraïbe dans ces îles-là.
Et à cette époque-là.
À cette époque-là, ouais. Mais même encore maintenant.
Encore maintenant,
il y a encore des survivances caraïbes.
Donc, se revendique Kalina, ils sont...
Kalinago. Oui, voilà. Ah, oui. Du nom de... Alors, c'est une population qui est issue du bassin de l'Orénoque. Et pourquoi Kalinago ? C'est parce que c'est le chef de la branche clanique qui serait parti, qui aurait migré et qui aurait incité, qui aurait lancé la migration justement des Caraïbes au-delà du bassin de l'Orénoque et qui aurait peuplé un peu les petites Antilles.
D'accord. Mais pour revenir au suicide, parce que c'est vrai que tel que vous l'interprétez, vous avez l'air de dire que finalement, c'est pas, on ne peut pas interpréter... Bon, finalement, les sociologues montrent que tout suicide est un meurtre commis par la société, oui. D'une façon ou d'une autre.
Oui.
Donc, il y a toujours quelqu'un qui porte le glaive. Mais dans le cas que vous étudiez, le tombeau des Caraïbes, c'est un meurtre immédiat. On les pousse presque dans la falaise. Mais est-ce que la lecture, est-ce que le suicide des Caraïbes a été un phénomène social important en dehors du tombeau des Caraïbes ? Est-ce qu'on a constaté, parce que c'est quelque chose qui, c'est une représentation fréquente, on a cette idée que les autochtones se suicidaient pour échapper à l'esclavage ou échapper à la guerre, au mauvais traitement, et que leur culture s'étant désagrégée, eh bien, ils préféraient choisir le suicide. Est-ce qu'on a des témoignages qui attestent de cette réalité ?
Pour les populations caraïbes, en dehors de cet épisode-là, non. Parce qu'il faut savoir que c'était un peuple guerrier, éminemment guerrier, qui a pratiqué, qui a mené la vie dure. Hein, l'île n'a pas été conquise, les Antilles n'ont pas été conquises très vite, hein, malgré la différence de moyens technologiques. Donc c'était un peuple guerrier, donc ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup lutté, beaucoup résisté, et ce n'était pas dans leur conception de la mort, s'infliger la mort ne faisait pas partie de leur façon de concevoir la vie et le monde, en fait.
C'est important que vous disiez ça, parce que là, le tombeau des Caraïbes change de signification. Ça ne peut plus être le symbole d'une pratique de suicide collectif et de suicide échapper à son destin. Ce que vous dites, c'est que non, ils ont affronté leur destin et qu'ils ont tout simplement été décimés ou qu'ils se sont enfuis, ils se sont mêlés à
d'autres...
Oui,
et non seulement ça, c'est... vu que maintenant, il y a un mémorial qui s'appelle le tombeau des rebelles, ça a été inauguré en 2002, mais ça a été réalisé par une artiste, une sculptrice martiniquaise qui s'appelle Hippocrate. C'est un lieu de survivance, mais pas dans le sens de survivance de mort collective, mais plus dans une optique de survivance, de réappropriation un peu de la mémoire, de réconcilier un petit peu la population avec une partie de cette histoire-là, et ça réhabilite un petit peu, en quelque part, la dimension, cette dimension qu'avaient justement les Caraïbes, qu'on a très longtemps présenté par rapport à cet événement-là, qui est un événement qui est un épisode de légende, mais au travers de cet épisode de légende, qu'on a plutôt présenté comme bon, c'était les derniers, ils ont sauté, et puis après c'est la fin, on les a exterminés, il n'y a plus de traces. Ouais. Non, il y a eu une forte résistance, et face à ne pouvant justement être maintenu plus longtemps en tant que minorité, même minorité dans l'île, trop visible parce qu'ils avaient une partie du territoire qui leur était encore attribuée. Donc, comme il fallait absolument faire la mainmise sur l'ensemble du territoire, les populations se sont donc déportées sur d'autres îles où il y avait aussi des foyers de lutte et des foyers de guerre et de fortes résistances. Après, elles se sont retrouvées aussi, elles ont refait la migration au niveau du bassin de l'Orénoque. Tout le monde n'est pas parenti. Il y a des gens qui sont quand même restés. Il y a quand même des populations caraïbes qui sont restées sur place. Pour l'épisode du tombeau, les populations qui ne se seraient pas enfuies à Saint-Vincent se seraient enfuies et réfugiées en part dans l'enclave caraïbe, et notamment au niveau de la ville de Sainte-Marine, sur des hauteurs qui s'appellent... c'est un quartier qui se trouve sur des hauteurs qui s'appellent le Mont des Esses. Et... Donc, ça change effectivement de la position du suicide.
Oui, bien sûr.
Complètement, en fait.
Oui, non, bien sûr. Et finalement, ça rejoint aussi les observations qu'ont pu faire les sociologues Durkheim parmi eux. C'est-à-dire qu'en temps de guerre, on se suicide moins. Pourquoi ? Parce que les temps de guerre sont des temps où les groupes se consolident pour lutter contre l'ennemi. Et finalement, la mort par surintégration, elle vient dans le combat, en fait.
Oui.
Donc, je pense que ça doit être... ça doit faire partie de ces phénomènes universels que les anthropologues recherchent encore aujourd'hui, en tout cas certains d'entre eux, que lors des guerres, eh bien, on se suicide moins. Durkheim, lui, l'avait observé lors de la guerre avec la Prusse. Mais aujourd'hui, ça n'invalide pas pour autant le fait qu'aujourd'hui, dans les populations autochtones, dont les cultures sont rendues minoritaires,
oui,
dont le mode de vie est rendu désuet par les représentations majoritaires, le suicide est plus élevé et a certainement trait, en tout cas, ce sont des interprétations qui sont données par les anthropologues, à une perte de repères culturels, à une situation où les autochtones, surtout les jeunes, puisque ce sont eux qui sont davantage touchés, eh bien, ne savent plus à quelle culture ils appartiennent, ne savent plus... s'arrimer pour se construire une identité. Et je vais donner tout de suite la parole à Martine pour un premier micro-récit.
Ce micro-récit s'intitule « L'acculturation peut te suicider ». Les sauvages portent les cheveux longs. Voulez-vous plutôt que je vous rase ? Il accepta et fut rasé. Les barbares s'assoient par terre. Voulez-vous plutôt cette chaise ? Il accepta. Et la tête rasée, il fut conduit. Les incivilisés se baladent tête nue. Voulez-vous plutôt ce casque ? Il accepta et, assis sur la chaise, le casque fut placé sur son crâne lisse. Les arriérés sont léthargiques. Voulez-vous plutôt de l'énergie ? Il accepta. Et le casque, par un électrode, transmit à son crâne lisse la brutale décharge qui l'électrocuta. On qualifia le décès de suicide.
Oui, et cette situation que tu décris, Martine, elle m'évoque tout de suite un passage de l'histoire, de ce qu'on appelle la grande histoire, évidemment avec des guillemets, puisqu'elle met en jeu des grands hommes, où Napoléon III recevait le Shah d'Iran. Et Napoléon III proposait des couverts en or au Shah, qui lui a dit « J'accepte, mais vous ne savez pas ce que vous perdez à ne pas manger avec les mains. » Mais il a accepté, effectivement. Oui, comme on accepte les chaises également. Bon, je suis désolé de décourter un petit peu ce débat, mais il le faut parce que le temps presse. Et je dois donner la parole à Pascal pour sa chronique sur l'actualité des combats des peuples autochtones. Donc, Pascal, c'est à toi. De quoi vas-tu nous parler cette semaine ?
Je vais vous parler de deux choses. Je voulais vous parler de Neil Young, d'abord. Vous connaissez sans doute le chanteur Neil Young, célèbre chanteur de folk qui vit aux États-Unis mais qui est d'origine canadienne, qui a fait un grand succès en 1972 avec son album Harvest, dont nous pouvons entendre un extrait actuellement qui est peut-être son tube le plus connu, Heart of Gold, où il raconte qu'il est un mineur à la recherche d'un cœur en or. Neil Young a récemment fait entendre sa voix pour s'opposer au sable bitumineux, à un nouveau projet d'extraction de sable bitumineux au Canada. Le gouvernement a accordé une licence à Shell pour doubler, voire tripler, l'extraction des sables bitumineux dans une région de l'Alberta où vivent les Athabasca Chipuyan, tout en reconnaissant que les conséquences environnementales de ce projet pourraient être désastreuses. Le dernier recours légal qui semble rester est le respect du traité signé il y a 114 ans entre les Athabasca Chipuyan et le gouvernement canadien, sachant que les taux de cancer chez les Athabasca Chipuyan dépassent déjà des sommets. Et donc Neil Young a interpellé l'opinion canadienne à ce sujet. Par ailleurs, Emmanuel me signalait tout à l'heure qu'une victoire des Autochtones a été, une petite victoire, peut-être première victoire, a été remportée dans le pôle Nord, où justement Shell s'est vu retirer un permis d'extraction du pétrole. Mais là, je n'en sais pas beaucoup plus, donc je ne pourrais pas m'étendre sur ce sujet-là. Je voulais sinon dire un petit mot à propos de Léonard Peltier. Donc, vous ne connaissez peut-être pas Léonard Peltier, mais le 6 février, il va rentrer dans sa 39e année de prison en Floride. Léonard Peltier est pourtant originaire du Dakota du Sud. Il vivait dans la réserve de Pine Ridge, chez les Lakota. Et il a été arrêté puis emprisonné suite à une affaire où deux policiers du FBI et un jeune autochtone ont trouvé la mort. Il a été accusé de la mort de ces deux policiers. Toutes les preuves, tous les éléments de preuve plutôt, ont été depuis révélés faux. Ce n'était a priori pas lui qui tenait l'arme du crime. Pourtant, il est toujours emprisonné. Une demande de grâce avait failli être acceptée par le président Bill Clinton au moment où il quittait la Maison-Blanche, mais au dernier moment, il y a renoncé. Barack Obama a examiné aussi le recours en grâce et a dit qu'il ne ferait pas de grâce avant son deuxième mandat. Il est maintenant dans son deuxième mandat. Et aujourd'hui, les choses ont un petit peu bougé parce que le rapporteur spécial de l'ONU sur les questions autochtones, James Anaya, qui est un Américain d'origine Apache, a rendu visite à Léonard Peltier et il avait déjà appelé à sa libération dans un rapport en 2012 en disant que la confiance des autochtones aux États-Unis dans la justice diminuait au fur et à mesure que les gens voyaient qu'on n'accordait pas cette libération à Léonard Peltier. Léonard Peltier, j'ai juste oublié de dire qu'il était membre de l'AIM, l'American Indian Movement, dans les années 1970, et que son arrestation pourrait bien avoir rapport avec cela.
Merci Pascal. Est-ce que tu peux simplement nous dire pourquoi, selon toi, Bill Clinton comme Barack Obama sont si réticents à attribuer cette grâce?
C'est que le FBI fait beaucoup de pression. Étant donné que la mort des agents du FBI est toujours prise très au sérieux, ce qui en soi n'est pas anormal, mais le FBI, à partir du moment où deux de ses agents ont été tués dans cette histoire, tiennent absolument à ce qu'on ne fasse aucune pitié à ceux qui ont été désignés comme les coupables. Il faut savoir qu'il y a des centaines de milliers de pages de dossiers et la plupart sont toujours gardées secrètes par le FBI. Donc,
d'accord.
Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus.
Je te remercie Pascal. On va passer maintenant à la dernière partie de cette émission consacrée à vos questions, à vos témoignages, à vos contributions. N'hésitez pas si vous avez envie de dire quelque chose, c'est à vous. Oui, monsieur Patiès.
Merci. J'avais deux questions que j'ai notées sur ma main. La première, c'est tout à l'heure, Émile, tu n'as pas osé poser la question de savoir comment se suicider, puisque je pense que ça a alimenté ta passion pour le morbide, et du coup, tu as hésité à poser cette question. Et du coup, moi, je ne vais pas hésiter, et du coup, pour nos intervenants, quel est le sens de... Est-ce qu'on peut trouver un sens dans la façon dont on se suicide? Est-ce que ça correspond à des groupes sociaux? Est-ce qu'on se suicide différemment si on est riche ou pauvre? Est-ce qu'on peut trouver un sens dans la façon dont on va se pendre, jeter d'un pont sous un train? Est-ce qu'on peut trouver différentes significations derrière l'acte en lui-même? L'autre question, c'était aussi pour apporter de l'eau à... au moulin sur le suicide collectif, c'était celui le cas des Xhosa qui est en Afrique du Sud. Donc c'était une des ethnies importantes de l'Afrique du Sud dont sont issus Nelson Mandela et Desmond Tutu par exemple. Et ce peuple-là avait chuté de 80% à la suite d'une prophétie. Ils avaient accompli une prophétie et cette prophétie disait que si ils tuaient tout leur bétail, l'ensemble de leur bétail, et ils auraient la possibilité de chasser les Anglais et les Afrikaners qui les poursuivaient dans les terres. Donc c'était un peuple agro-pastoral, et quand ils ont assassiné tout leur bétail, ils se sont retrouvés sans moyen de commercer et aucune possibilité économique, et ils sont morts à 80% de l'ethnie. Voilà, donc c'est aussi un cas de suicide social et de suicide collectif, voilà, pour apporter deux cas de dérégulation d'une société. Mais oui, je veux bien qu'on revienne à la première question sur est-ce qu'on peut trouver un sens à comment on se suicide.
Merci pour cette contribution et cette question. Mary Picon, vous pouvez peut-être répondre.
La formulation est peut-être un peu large. Disons, est-ce qu'on aurait, alors si j'ai bien compris, se pendre aurait un autre significat que, par exemple, se jeter d'une falaise? C'était ça que vous vouliez savoir?
Éventuellement, c'est une possibilité. Oui. Oui, c'est ça, éventuellement. Oui.
Disons, d'un côté, dès qu'on parle de moyens, je voudrais dire que, si je ne m'abuse, l'État français a interdit donc la publication de ce manuel pour le suicide. Donc, en théorie, alors est-ce que j'ai le droit d'en parler, puisque j'ai une, disons, une collection à la maison, y compris un autre manuel au Japon qui, là, n'a pas été interdit. Donc, je ne sais pas s'il faut un cours pratique.
Nous prenons nos responsabilités.
Cela dit, par exemple, on pourrait, pour rester peut-être un peu plus dans le symbolique, un des moyens les plus courants et qui peut-être peut passer ou aurait pu passer pour exotique aurait été de se suicider lentement par inanition. Par exemple, chez des populations en Inde, et petit à petit, lié au renoncement, entrer dans une autre phase de la vie dans laquelle petit à petit on se laisse aller. Mais alors là, on a quand même un souvenir extraordinairement, un rappel extraordinairement macabre du fait, en fait, de l'obligation, à mon avis, faute d'une législation courageuse, qui permet donc à la profession médicale de faire mourir, disons, ceux qu'on ne peut pas euthanasier par justement une mort lente de faim et de soif à l'intérieur de nos hôpitaux. Donc il ne s'agit pas vraiment d'un suicide, mais dans le cas où alors c'est une forme déguisée de pratiquer l'euthanasie, mais à l'intérieur, quand ça avait encore un significat religieux, c'était quelque chose qui était assumé jusqu'au bout, à l'intérieur donc de procédures rituelles. Puis il y a bien entendu ce qu'on appelle le seppuku, donc se couper le ventre. Mais là, et ça c'est peut-être toujours quelque chose qui d'abord, à ma connaissance, n'a plus été pratiqué au Japon, mais je peux me tromper. Ou alors une fois par an par quelqu'un de pas très équilibré, mais à l'époque, premièrement, était réservé exclusivement à la classe donc de samouraï et encore aux hommes. Donc nous sommes déjà 6% de la population, on divise par deux, on arrive à 3%. Ensuite, en général, l'acte n'était pas vraiment abouti parce que quelqu'un arrivait, heureusement, et coupait la tête. Mais l'idée était à la fois, c'est vrai, de montrer sa maîtrise de la douleur, mais aussi, très curieusement, et ça c'est moi qui annonce cette théorie, un missionnaire, le père Huck, qui est allé donc au Tibet, avait vu, d'après lui, donc toute une série donc de tentatives de la part de chamans qui, d'après lui, s'ouvraient le ventre, peut-être de façon moins drastique, mais on voyait bien la coupure. Et puis, arrivait, comme on dit pour les guérisseurs des Philippins, à renfermer cette blessure et à continuer comme avant. Donc on peut parfois se demander si ça n'avait pas eu à un moment la possibilité de montrer une sorte de maîtrise, comme justement la maîtrise du manque de nourriture. Et donc le suicide serait dans certains cas une sorte de montrer au contraire de pouvoir quasi surhumain de surmonter les limites de notre mortalité. Mais ça, c'est une hypothèse.
Ah, merci de la partager avec nous et de prendre aussi cette liberté de nous parler du manuel du suicide interdit en France. Martine a un deuxième micro-récit à partager avec nous.
Oui, concernant une technique novatrice, c'est le suicide triangulaire. Mais ce n'est pas une blague. Cet individu qui se tient immobile devant toi est un barbare dont la seule qualité et d'en avoir conscience. Il se méprise lui-même autant que tu le méprises. Il te regarde dans les yeux, mais ce n'est pas pour te défier. Au contraire. Rien en lui n'est spontané. Tout en lui est imitation et il t'imitera même à son détriment. Aide-le, lève le pistolet que tu as dans la main, pose-le sur ta tempe, montre-lui maintenant comment mettre fin à ses souffrances. Du sang coule sur le miroir devant lequel s'écroule l'hypnotisé. L'hypnotiseur présentera le décès comme un suicide.
Alors quand tu disais que ça n'était pas une blague, est-ce que tu as choisi ce micro-récit dans une dépêche ou dans un fait divers sordide, ou est-ce que c'est sorti de ton imagination comme un cas qui illustrait un des types sociaux de suicide qu'on a vu ce soir?
En fait, j'avais un autre titre pour là, qui était le faux triangle du mépris. Le faux triangle du mépris, le sens que l'idée que le mépris implique non seulement un agent qui méprise, mais aussi quelqu'un qui se méprise lui-même, parce qu'il se voit du point de vue de celui qui le méprise. Et donc à partir de là, d'élaborer comment ce triangle du mépris pourrait aboutir au suicide, voilà, par délégation.
D'accord. C'est intéressant d'introduire cette notion du mépris. On n'en a pas parlé ce soir, mais effectivement, c'est le mépris pour sa culture. Enfin, on peut imaginer que beaucoup d'Autochtones, voyant l'état démographique, l'état aussi de santé, souvent de ces peuples autochtones qui sont livrés à l'alcoolisme, au diabète, l'état de déculturation totale, ressentent peut-être du mépris pour eux-mêmes, pour leur culture. Mm-hmm. Et on peut imaginer que ça a un rôle, cette émotion doit être particulièrement forte chez eux. Non, c'est peut-être ce que tu as imaginé comme hypothèse aussi.
Oui, simplement l'idée que pour trouver du sens à la vie, il faut penser qu'on a quelque chose d'intéressant, d'important à faire dans la vie. Autrement, si on se voit soi-même comme quelqu'un qui n'a rien à faire dans le monde, bah évidemment, on revient aux analyses de type Durkheim, où effectivement on est prêt à mourir, simplement parce qu'on accorde à la vie aucune importance. Et une manière justement d'aboutir à la conclusion, d'arriver à la conclusion que la vie n'a pas d'importance, c'est justement de se regarder du point de vue de quelqu'un qui te méprise. Mmh. Et donc il va considérer que toi tu vaux rien.
Mmh. Bon, est-ce qu'il y a encore une... Oui.
Oui, je voudrais ajouter quelque chose sur le suicide chez les peuples autochtones, parce que Sophie Gergaud n'a pas pu venir, elle aurait sûrement pu nous parler de ça. D'abord, pour réagir à ce que disait Martine, un ami médecin me disait effectivement que chez les peuples autochtones, il y a un gros problème d'estime de soi. Et en fait, il y a, sur le suicide autochtone... Il y a aujourd'hui un peu de théories. Bon, je résume vraiment parce que je ne suis pas un expert de la question, mais on oppose un peu la thèse culturaliste à la thèse, comment je pourrais dire, du contact et de rapport de force. C'est-à-dire la thèse culturaliste qu'avancent beaucoup certains anthropologues, et de dire que, en gros, les autochtones, c'est dans leur culture. Alors beaucoup, surtout chez les peuples autochtones d'Amérique, c'est pour ça aussi que j'ai tenu un peu à ce qu'on parle du tombeau des Caraïbes et de toute cette histoire de Caraïbes qui se laisseraient mourir face à la possibilité de l'esclavage, etc. De dire que ces peuples qui pratiquaient le sacrifice humain, qui avaient une autre vision de la douleur et de la mort, se suicident beaucoup parce que c'est dans leur culture. Et il y a des gens qui combattent beaucoup cette thèse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut remarquer que dans les communautés autochtones, je vais citer par exemple les communautés Guarani en Amazonie brésilienne, où le taux de suicide est énorme, on voit quand même bien qu'il y a une situation de contact et de rapport de force qui est extrêmement difficile et extrêmement douloureuse. Donc voilà, je voulais mettre un peu en exergue ces différentes thèses qui sont avancées par certains et combattues par d'autres.
Oui, merci, tu as raison de le rappeler. Et je crois que c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Donc je vais vous remercier tout d'abord tous d'être venus. Et je vais remercier aussi nos deux invités, Mary Picon et Emmanuel Bramban. Merci à toi Pascal pour avoir fait ce reportage et pour tes contributions en chronique. Merci à Martine pour ses micro-récits, à Marion pour sa chronique pédagogique sur l'histoire des théories du suicide. Merci à toi Laurent d'être venu réaliser en ce samedi après-midi. Et je vous donne rendez-vous dans 2 mois pour une prochaine émission sur l'Afrique lusophone, qui est le Zoom thématique du Salon de Lecture. Merci aussi évidemment à l'équipe du Salon de Lecture qui nous accueille toujours avec la même efficacité et la même chaleur. It's these expressions.